Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Locale, l'émission d'information locale de Radio BLV, en direct du mardi au jeudi de midi 15 à 13h, animée par Carina et par Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Carina.
Alors, au sommaire de cette locale Sylvie, on est donc le mercredi 20 janvier. Que se passe-t-il ?
Alors, exceptionnellement, on a plein de gens en studio et ça, c'est plutôt chouette. Nos trois invités du jour sont avec nous et ils sont quatre. C'est comme les mousquetaires. Alors, on va démarrer avec Laurence Charouin, qu'on connaît bien sur Radio BLV et qui va nous parler atelier clown et bien d'autres choses. Ensuite, on ira se promener du côté de la mission locale de l'agglomération et du pays et du Valentinois, je vais y arriver, mais voilà, ils nous le diront tout à l'heure, avec Régis Poncic et Karine Trumps. Et on finira avec, on ira se balader du côté là, de Chabeuil pour découvrir La Roue, un nouveau tiers-lieu qui s'est installé à Chabeuil avec Aliénor Spielmann. Et puis, on vous proposera quelques infos et la bonne nouvelle du jour.
Merci Sylvie. Et on commence donc tout de suite avec Laurence. Laurence, donc, moi je t'ai découverte par Facebook parce que tu organises des ateliers clowns sur Valence finalement. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je suis Laurence. Effectivement, j'anime des pratiques autour du clown et également du corps en mouvement qui partagent une intention commune. Celle plutôt de développer la présence à soi, aux autres, à développer, rencontrer notre humanité et notre poésie, j'ai envie de dire, et accéder à un espace intime de liberté, de légèreté.
Quelque chose en plus de particulièrement important en ce moment qui fait du bien à tout le monde, j'imagine. Et qu'est-ce que c'est finalement un atelier clown ?
Alors, moi, je propose plusieurs formats. Il y a un atelier clown hebdomadaire qui dure 2 heures, où là, après un petit échauffement, on rentre rapidement dans la pratique du clown. Vraiment, le travail est axé sur l'improvisation. Chaque personne improvise à chaque atelier, en solo ou en duo. On ne cherche pas à faire rire, on n'est pas là à faire des sketchs. On cherche plutôt à laisser être ce qui est déjà là, enfin à développer la conscience de ce qui surgit et à se laisser exister. Et donc ça, c'est le format des ateliers hebdomadaires, c'est un groupe réuni sur l'année. Et puis il y a un format mensuel, ce sont des ateliers sur une journée qui là, actuellement ont changé un peu de format. Où là, c'est un mix de pratiques. On arrive au clown avec beaucoup de douceur. On fait beaucoup de pratiques d'écoute, des pratiques corporelles. Voilà. Et en douceur, on arrive à la rencontre de notre créature. Et ça, c'est un groupe qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut participer quand on le souhaite. Donc, il y a des personnes qui reviennent. Des personnes qui viennent pour la première fois. Et voilà. Et ça nous rappelle que c'est toujours une première fois. Enfin, c'est toujours une nouvelle rencontre, d'abord avec le groupe et après avec soi.
Donc tu accompagnes les gens, en fait, pour les aider à libérer quelque chose qui est à l'intérieur ?
Je les accompagne pour trouver plus de douceur avec eux. Pour se rencontrer, pour laisser exister ce qui est là, pour s'accueillir dans toutes nos facettes d'obscurité et de lumière. Et voilà. Et puis, libérer notre créativité, se sentir un espace de liberté à l'intérieur de nous, ce qui me semble assez important en ce moment. Donc, on ne cherche pas à faire rire, mais c'est très joyeux.
La joie, c'est vraiment quelque chose qui est important de cultiver par les temps qui courent. Et quels sont, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des exercices que tu donnes donc aux personnes quand elles viennent? Comment concrètement tu fais?
J'adore cette question aussi. En fait, je débute toujours en disant qu'on ne fait pas d'exercice. On est dans le champ de l'expérience. Moi, j'anime aussi par ailleurs des ateliers de pratique somatique. Donc, c'est vraiment une approche somatique du clown. On fait l'expérience de soi et on ne fait pas d'exercice. L'exercice entend qu'il y aurait une bonne façon de faire et un résultat à obtenir. Alors que moi, en fait, je fais des propositions, je fournis le cadre pour qu'elles puissent être faites avec le plus de sécurité et de douceur possible. Et à l'intérieur, chacun fait l'expérience de lui. C'est très, très différent que faire des exercices. Donc, on ne fait pas d'exercice.
D'accord. Et ça apporte quoi, en fait, aux gens? J'imagine que ça doit leur apporter plein de choses, en fait, entre l'improvisation, prendre contact avec ses émotions.
J'ai envie de dire de la douceur, plus de douceur envers soi, de la libération, mais qui n'est pas forcément hystérique, hein. De la libération, de l'accueil des émotions qui sont là, de l'ouverture sur notre créativité, de plus de douceur avec soi et avec les autres. On cultive aussi on s'entraîne à être sans attente, sans jugement, à pas interpréter. Je sais pas, plus de poésie, plus de douceur, plus d'amour.
Ça doit faire du bien, tout ça. Et tu es formée en clownothérapie?
Oui, et je propose aussi, j'ai oublié d'en parler, là, je propose un cycle de clownothérapie, un cycle de 5 séances, où là, on va faire un travail plus sur ce que j'appelle les figures cachées. C'est-à-dire, on va travailler sur tous les personnages qui nous habitent. Et le clown est un super médiateur pour s'en emparer, pour se distancier. Enfin, pour le faire vivre dans le corps et puis pour faire grossir tous ces schémas qu'on a, auxquels on s'identifie, et pour pouvoir se désidentifier et se libérer un peu de tous nos comportements limitants. J'en profite pour dire que ce n'est pas du tout une démarche analytique. On est vraiment dans le corps, on est vraiment dans la conscience et dans la mémoire, dans tout ce que le corps peut faire comme travail. Donc, on ne cherche pas à savoir pourquoi je suis, pourquoi j'ai toujours un personnage de timidité ou de honte ou d'hésitation, mais plutôt, comment il s'incarne quand il est là, qu'est-ce qu'il déclenche, qu'est-ce qu'il me raconte, et comment je peux le faire vivre et le faire vivre au-delà de moi, en fait, et pouvoir me libérer de ça. Donc oui, je suis formée pour utiliser le clown en médiation, plutôt sur un travail thérapeutique. Le travail du clown dans le champ du développement personnel et puis aussi le clown de théâtre, même si moi, je ne vise pas la représentation dans le travail que je fournis, parce que ce n'est pas mon endroit et ce n'est pas ce qui m'anime.
Oui, on n'est pas sur un clown circassien, on est vraiment sur le clown, l'image du clown, le personnage du clown comme support de travail.
Oui, mais on travaille quand même le clown théâtre, la présence scénique, le rapport au public. Donc, il y a tous les champs. Par contre, moi, je n'emmène pas, je ne suis pas metteuse en scène.
Oui, vers une représentation.
Je n'ai pas la compétence et ce n'est pas mon endroit. Ce qui m'intéresse dans le clown, c'est vraiment la poésie, la présence, le rapport. Donc, j'ai des personnes qui n'ont jamais fait de clown, qui côtoient des personnes qui n'en ont fait... des personnes qui n'ont jamais fait de clown, qui côtoient des personnes qui en ont fait beaucoup. Mmh. Et chacune trouve
son espace.
Et quand tu dis médiation, est-ce que c'est la résolution de conflits, par exemple, ou à quoi tu fais allusion?
Je veux dire que je parlais de la médiation du clown, que le clown, c'est un peu un intermédiaire entre moi et moi.
D'accord.
Presque.
Entre les plusieurs parties qu'on a à l'intérieur. Et comment est-ce que tu es arrivée aux ateliers clown?
Alors, moi, je suis arrivée là à la suite d'un épuisement professionnel. même si j'avais rencontré le clown avant. J'étais déjà dans le champ créatif, on va dire. Je suis venue ici parler de musique plusieurs fois. Voilà, et c'est en faisant tout un... Enfin, je ne sais pas, tout d'un coup, enfin, cet événement qui m'a amenée dans une sorte de vide, à la fois très inquiétant et un peu grisant, ça m'a permis de reconstruire un peu, enfin, de me reconstruire et différemment et de rencontrer l'endroit où je dois être. Donc voilà, donc le clown m'a emmenée à la somatique, la pratique du corps vécu, qui m'a emmenée aux soins manuels aussi.
Que voilà, tu proposes
donc c'est
aussi.
Mes trois champs.
Et comment est-ce qu'on peut te rejoindre pour les personnes qui seraient intéressées par ces ateliers?
Alors, j'ouvre une place dans l'atelier hebdomadaire. Voilà, c'est chouette en milieu. On est un petit groupe cette année parce que les inscriptions ont été bien réduites sur les engagements annuels. Et puis en milieu d'année, enfin en tiers d'année, ça amène un peu de fraîcheur de mélanger tout ça. Donc j'ouvre une place dans l'atelier hebdomadaire. Je propose des ateliers mensuels qui, dans un nouveau format, d'une grosse demi-journée, ou là, qui sont ouverts à tout le monde. Et il y a ce cycle de clown thérapie. Et je propose aussi des stages résidentiels. Il y en aura deux cette année. Donc on peut me contacter via le site écoutetonclown.com, la page Facebook, voilà, où on m'appelait.
Et donc, c'est maintenu, tes ateliers, avec les règles sanitaires, ou comment est-ce que tu t'es organisée?
Alors, les ateliers n'ont jamais cessé. On a toujours poursuivi, même à distance. J'y aurais pas cru que ce soit possible, ni même que j'y trouve du plaisir. Donc, on a fait les ateliers clown à distance, les ateliers écoute sensible et mouvement authentique à distance. Là, en clown, on a repris en présentiel, dans un espace privé. On est un petit groupe. On a suffisamment d'espace. On a des masques, des visières avec lesquelles on joue à l'occasion, enfin qui font événement. Voilà, j'ai changé les formats pour qu'il y ait moins d'interaction. Sur le format mensuel, c'était un format sur une journée, on partageait le repas. Donc, voilà, on s'adapte. Et puis, si les conditions évoluent, je m'adapte, on invente. On essaye de jouer avec ça.
Et avec ton autre casquette, donc tu pratiques beaucoup le toucher. En ce moment, c'est important. Les gens manquent de toucher. Est-ce que tu le remarques, ça, ce manque?
Oui. Moi, déjà, je le remarque pour moi-même, déjà, et pour les autres. Je pense, oui, être touché, enfin, ça me renvoie à la conscience de soi. Enfin, comment le toucher me permet d'exister aussi et de m'incarner. Donc, c'est important dans la relation à l'autre. Je pense qu'on manque beaucoup de ça en ce moment. Donc, voilà. Et le toucher de l'autre. Donc, on peut se toucher soi-même, prendre un bain. Mais le toucher de l'autre aussi permet à mon corps de se réorganiser dans les mains de l'autre. Ça, je ne peux pas le faire dans mes propres mains. Donc,
ouais, c'est important, voilà. Le toucher et puis prendre soin de soi à travers le bain dont tu parles. Il faut effectivement qu'on prenne soin de soi. Mais merci beaucoup, Laurence.
Merci beaucoup.
Alors, il ne va pas s'agir de toucher, mais de vaccination, puisqu'on est en plein dedans. Et encore que, voilà, on pourrait aussi parler du toucher comme soin. Un point sur la vaccination sur le territoire. Alors, un petit rappel préliminaire. Les centres de vaccination accueillent le public suivant. Les personnes âgées de plus de 75 ans à domicile, les professionnels de santé, libérales ou hospitaliers, les aides à domicile, les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans et ou qui ont des facteurs de comorbidité, les patients particulièrement vulnérables à la Covid, cancer et maladies hématologiques, les maladies rénales chroniques sévères, les patients dialysés, les transplantés d'organes solides, les polypathologies chroniques certaines maladies rares et la trisomie 21. Pour tous ces publics, dont le centre de vaccination du secteur de Valence et le centre hospitalier 179 boulevard Maréchal-Juin à Valence, et vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04 75 75 77 00, 04 75 75 77 00 ou sur Internet. Alors, sur Internet, eh bien, vous allez sur santé.fr ou sur doctolib.fr et vous trouvez le lien pour, ben, en l'occurrence, le secteur de Valence. Pour le secteur de Romans, c'est au Théâtre des Cordeliers, aux 4 places Jules Nadi, à Romans, donc, que se trouve le centre de vaccination. Et là, c'est pareil, soit sur Internet avec santé.fr ou doctolib.fr, sinon par téléphone au 04 75 79 25 00, 04 75 79 25 00.
Et nous sommes aussi avec Régis et Karine de la mission locale. Donc la mission locale qui se trouve à Valence, peut-être qu'on peut rappeler pour commencer pour les auditrices ou auditeurs qui ne connaîtraient pas la mission locale, ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites ?
Bonjour dans un premier temps.
Bonjour.
Alors la mission locale, tout est dit dans le nom, il y a une mission et ça travaille localement. La mission, elle est simple, c'est d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans révolus, c'est-à-dire au premier jour des 26 ans, on ne les suit plus, dans tout le champ de l'orientation, de la formation, du savoir-être et de l'emploi. Mais pas que, puisque vous avez aussi un particularisme drômois. Sur les 5 missions locales de la Drôme, nous avons aussi en responsabilité le suivi de 1445 bénéficiaires du RSA. Voilà. Et pour les jeunes, on a 2164 jeunes en suivi en 2020.
Et comment se passe ce suivi ?
Par le biais de rendez-vous, en fait. Les jeunes vont être accompagnés suivant le dispositif dans lequel ils y rentrent. Mmh. Ils vont être accompagnés donc, par un conseiller, un référent unique. Le côté unique est important parce que pour le coup, le jeune n'a pas à répéter plusieurs fois son parcours de vie. Donc il va être accompagné, ça va être des rendez-vous réguliers, ça va être des démarches à effectuer, ça va être lui faire profiter du réseau de partenaires qu'on peut avoir aussi en fonction de la problématique du jeune. Problématique qui peut être sociale, autonomie, mais aussi problématique sur le volet emploi, formation. Donc on est vraiment sur un champ global pour le parcours et l'accompagnement du jeune. On ne va pas s'arrêter qu'à lui donner s'il y a une offre d'emploi. Ou voilà, on va vraiment aller au bout de l'accompagnement sur la durée du parcours. Ça peut aller donc de 16 à 25 ans. Donc voilà, au fur et à mesure, les jeunes, en fonction du besoin, peuvent venir nous voir.
Les missions locales, en tant que service public de l'emploi, sont, comme Karine vient de dire, c'est des référents de parcours. Et si vous avez noté, on prend le terme accompagnement, parce qu'on n'aide pas. Aider, c'est se mettre au-dessus des autres. Accompagner, c'est faire un travail avec l'autre.
C'est bien de le préciser, effectivement. Et est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre de jeunes venir vous voir avec la crise économique qui est arrivée ?
Alors, du fait de la crise sanitaire, alors, je ne pense pas qu'on ait tout de suite, à l'heure actuelle, sur une crise économique. Je pense qu'on la verra arriver après. Mmh. Mais on a quand même eu une augmentation significative du nombre de jeunes en suivi. Par rapport à l'année d'avant, on est à plus de 300 jeunes en plus qui sont venus nous voir. Et il y a une autre chose très signifiante, c'est que c'est bien entre 16 et 25 ans, et on a vu une augmentation du nombre de jeunes entre 16 et 18 ans. Et donc, c'est un public encore plus particulier, avec où il faut avoir encore plus de bienveillance et d'attention pour comprendre comment pouvoir remettre vers le champ de l'insertion, c'est-à-dire l'orientation vers une alternance, une formation et peut-être vers un emploi. Mais bon, à 16 ans, c'est jamais facile. Donc, on est plutôt sur un champ à ce moment-là d'alternance et d'apprentissage.
voire même, si je peux me permettre, on peut aussi accompagner sur un retour à l'école. Parce que pour le coup, 16 ans, c'est très jeune, sorti du système scolaire. Souvent, il y a des problématiques qui n'ont pas forcément été résolues à ce moment-là. Donc, on peut travailler ponctuellement avec eux pour essayer de leur redonner goût à aller, à aller au collège, au lycée ou en alternance, comme disait M. Poncic.
Et là, c'est les 300 jeunes de plus. Donc, s'ils ne sont pas venus par la crise économique, qu'est-ce qui les a amenés jusqu'à vous ?
Alors, à l'heure actuelle, vous avez énormément de communication, de fake news, de gens, de diseux qui parlent en disant que la situation est difficile ou pas difficile. Voilà, la situation est très particulière. Et je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup plus de personnes s'interrogent sur leur avenir et ne le repoussent pas en disant je verrai après, et veulent être justement acteurs. Et je prends plutôt ça comme quelque chose de positif, de se dire qu'on a plus de personnes qui viennent, qui veulent construire leur propre avenir. Peut-être que ces personnes-là, on ne les aurait pas vues, et ils seraient devenus ce qu'on appelle des invisibles, et des gens qui auraient pu être en marge de leur avenir, ou en marge de la société.
Et quels sont leurs besoins, principalement, aux jeunes qui viennent vous voir ?
Alors, c'est très large, en fait. Le besoin du jeune, je vous disais, ça peut être un besoin ponctuel. Ponctuellement, il a besoin, il cherche un apprentissage. Ponctuellement, il s'est retrouvé, il a été licencié ou suite au Covid, hein, suite à la Covid, pardon. Et du coup, il va venir nous rencontrer pour qu'on puisse lui apporter des techniques de recherche d'emploi, refaire son CV. Ça peut être aussi dans cette période un jeune qui va être en difficulté par rapport à son logement. C'est ce que j'expliquais en fait tout à l'heure. Donc, on est soit sur du parcours. Donc, parcours qui peut prendre des mois, voire des années, ou on peut être aussi sur du ponctuel. Donc, il va venir parce qu'à un moment, il a un besoin, à ce moment-là. Après, il va peut-être revenir au bout de 6 mois, 1 an, parce que finalement, il y a d'autres choses qui ont émergé en lui, avec d'autres envies, d'autres idées de formation, d'autres projets. Donc, voilà, donc c'est vraiment très, très large, en fait, sous le point de vue de l'accompagnement.
Alors, je me permets de rebondir. Ça me faisait penser à l'instant que par rapport à la première intervention, on est typiquement dans notre intervention en tant que conseiller insertion professionnelle. Ça dure 45 minutes l'entretien et il y en a plusieurs. Parce que le vrai travail, c'est de lever les freins, de savoir où se situe la perte de confiance ou la difficulté, afin de permettre à la personne, donc je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est tout simplement de se réapproprier ce qu'il est, ses appétences, ses compétences, et de pouvoir reconstruire en créativité, je reprends vos mots, ce qu'il veut faire plus tard. Et s'il n'a pas cette confiance-là, ça ne sert à rien au départ de le renvoyer tout de suite vers un emploi. Parce que si on n'a pas créé des fondations ou un socle, ça peut marcher, mais il y a plus de chances que ça ne marche pas parce que justement, on n'a pas traité la vraie problématique. Parce que tout le monde peut travailler, ça c'est certain.
Et est-ce que pour les jeunes qui nous écoutent, vous auriez des conseils ou des noms de structures à proposer où ils peuvent trouver de l'aide en plus de la vôtre, ou des numéros, des aides qui pourraient être utiles ?
Alors moi, ce que je leur proposerais déjà dans un premier temps, c'est de nous rencontrer. La mission locale, en fait, donc ça fait très longtemps qu'on est sur le bassin. On est assemblier, donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de partenaires avec qui on a mis en place une collaboration. Du coup, les jeunes, j'aurais tendance donc à leur dire, prenez rendez-vous, passez un coup de téléphone, donc au 04 75 82 01 80. Ou bien, on a aussi une possibilité, une application qui permet aux jeunes à toute heure de prendre un rendez-vous qui s'appelle Synbird, S-Y-N-B-I-R-D. Donc déjà, première chose, ça serait ça. Après, en tant que CEP, nous, on va être là justement pour les rediriger. Le but, c'est pas qu'ils restent longtemps.
Vous êtes la porte d'entrée.
Exactement. Le but, c'est pas qu'ils restent longtemps sur un parcours complet, si on peut éventuellement lui donner un coup de pouce. C'est de l'orienter vers la personne qui sera la plus habilitée pour pouvoir l'accompagner au mieux.
Ça marche. Est-ce qu'on peut redire le numéro de téléphone, peut-être ?
04 75 82 01 80.
Super. Et pour vous trouver physiquement, vous avez déménagé là ?
Alors là, c'est le vrai sujet. Parce qu'à l'heure actuelle, à part le fait qu'on est derrière le micro physiquement à l'heure actuelle, donc déjà, on est 40 collaborateurs. Et à l'heure actuelle, nous sommes sur deux sites. Un dédié au RSA qui se trouve sur Noval Park et un qui se trouve à Allée Bernard Gangloff, à côté de la préfecture de Valence, derrière la poste, où on a tout ce qui est activité jeune. Mais à compter du 8 février à 14h, nous accueillerons les jeunes et moins jeunes sur un seul site, qui est le 333 avenue Victor Hugo, où seront rassemblés d'autres acteurs, d'autres qui sont déjà présents. C'est Pôle emploi qui se situe à cet endroit-là, Pôle emploi Victor Hugo, et la plateforme emploi, qui est une grosse structure qui a, par exemple, l'école de la deuxième chance et tout ce qui est clause sociale et le PLI en son sein, et quelques collaborateurs aussi du département, qui travaillent en relation, d'ailleurs, avec nos deux structures. Donc, c'est une grande innovation, une nouveauté qui permettra d'avoir sur un seul site plusieurs acteurs. Et donc, ça sera facilitateur. Et en plus, on sera vraiment dans l'immédiateté. Parce que parfois, qu'on soit âgé ou pas, dans le monde actuel, on veut que tout se déroule très rapidement. Mmh. Donc là, au lieu de dire à une personne, mais déplacez-vous à l'autre bout de la ville pour aller voir tel acteur, ça sera directement au même endroit.
Ça sera le bureau d'en face. Par contre, on est vraiment donc sur une plateforme, sur une plateforme, donc c'est pas la plateforme pour l'emploi, hein, mais enfin sur un site en tous les cas, où on est sur l'insertion et l'emploi. C'est vraiment dédié à ça. Je souligne juste ça parce que, comme vous l'aviez dit très justement, la Milo dépasse les objectifs et les missions de la Milo dépassent aussi quand même uniquement l'insertion et l'emploi. Il y a aussi tout l'accompagnement social qui est important.
Voilà,
est important de rappeler.
Excusez-moi, je vous coupe, c'est pas bien. La plateforme le fait aussi, parce qu'avec les clauses sociales, on est aussi dans une notion. Il faut sauter de l'esprit parfois qu'il y a des tubes où il y aurait le monde du travail, le monde de l'emploi, le monde de la connaissance de soi. Tout est interconnecté. Et justement, de se trouver au même endroit, ça va permettre de casser ces codes-là, que le monde de l'entreprise soit là aussi, à tout son sens, parce qu'on va faire venir du monde. Enfin, il y a énormément de choses qui sont prévues, que je ne coordonne pas. Moi, je serai une structure en son sein, au sein du 333. Mais il y a de très bonnes choses qui vont déboucher de cela, c'est sûr.
Et avec la crise sanitaire, est-ce que les jeunes peuvent quand même venir vous voir physiquement ?
Tout à fait. Nous n'avons, premièrement, jamais été fermés. Donc, on accueillait pendant le premier confinement par le biais d'accueil téléphonique et d'autres. Mais on ne ferme pas. On est service public. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, revenez dans 3 mois, on verra après.
Aujourd'hui, effectivement, un jeune peut venir vous voir, peut vous prendre contact. Il sera reçu.
Il sera reçu.
Et même un dispositif garantie jeune qui est en collectif se passe toujours. Donc on a adapté les sous-groupes pour faire en sorte d'être dans la réglementation par rapport à la Covid. Mais bien sûr, c'est toujours possible.
Peut-être 2 mots de la garantie jeune. On est un peu pressé par le temps, mais c'est important de le redire.
Alors la garantie jeune date de 2013. Elle a été mise en place en septembre 2015 au niveau de l'agglomération au territoire du Valentinois. Depuis, nous avons eu 948 jeunes qui sont passés au niveau de la garantie jeune. C'est un accompagnement de 1 mois en collectif. Et après, pendant 11 mois, un suivi avec un accompagnement vers le projet et trouver un emploi, bien sûr, et avec une aide, un accompagnement financier de 497 euros à l'heure actuelle, qui correspond à un RSA, pour la personne sur la durée des 12 mois. Cette année, nous avons les objectifs qui augmentent parce que l'État essaye d'accompagner toutes les personnes. Donc on avait en moyenne ces derniers temps des objectifs à 180 jeunes en garantie jeune. Et on devrait, on attend les chiffres exacts, tourner entre un objectif entre 340 et 360 jeunes
entrant dans ce dispositif. Alors, c'est vraiment, quand on dit un accompagnement, c'est vraiment effectivement, il y a la possibilité d'avoir un petit revenu, on va dire, puisque le RSA jeune n'existe toujours pas. Mais par contre, parce qu'on rentre aussi dans une formation ou dans
un. On s'engage. Voilà, on s'engage sur la période des 12 mois.
Merci beaucoup.
Merci.
De rien.
Toute petite petite info, personne ne l'aura, personne ne sera passé à côté. Aujourd'hui, c'est le démarrage des soldes, ce mercredi 20 janvier et jusqu'au 15 février. Et donc, un arrêté préfectoral d'ouverture le dimanche a été édité, considérant les effets de la crise sanitaire sur l'activité des commerces, fermeture, couvre-feu à 18h, etc. Donc, le préfet de la Drôme a pris un arrêté permettant aux commerces de détail du département une ouverture exceptionnelle, enfin ils sont autorisés exceptionnellement à employer des salariés pendant 3 dimanches de suite, le dimanche 24, les dimanches 24 et 31 janvier ainsi que le 7 février. Les magasins seront donc autorisés à être ouverts avec du personnel. Alors petit rappel tout de même, cet arrêté 1 ne concerne pas les apprentis et le travail est possible si le ou la salarié a donné son accord par écrit. C'est important de le repréciser. En outre, le travail hebdomadaire ne doit pas excéder 6 jours par semaine civile, 48 heures hebdomadaires et 10 heures journalières qui sont les durées maximales absolues. Notez-le dans un coin de tête.
Et nous sommes aussi avec Aliénor de la Roue, donc à Chabeille. Aliénor, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire bonjour, enfin, d'abord.
Bonjour.
Et te présenter.
Oui, alors je m'appelle Aliénor, donc j'habite à Chabeille. Ça fait pas très longtemps que nous sommes dans la Drôme avec ma petite famille. On était en Seine-Saint-Denis avant pendant longtemps et depuis 2 ans, voilà, on a la joie d'habiter Chabeille et de développer ce projet de la Roue.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de la Roue ?
Alors, le projet de la Roue, c'est un tiers-lieu et le projet d'un tiers-lieu en développement pour, en fait, réunir plusieurs activités et plusieurs publics dans un même endroit. Nous, on est parti de plusieurs besoins qui avaient été exprimés par un peu par des tendances de société et par ce qu'on entendait autour de nous. Une perte du manuel et la volonté de reconnecter les gens au faire, de leur donner l'occasion de travailler avec leurs mains et de faire des choses, de fabriquer des choses, que ce soit des enfants, des jeunes ou des adultes. On avait aussi envie d'un lieu où les gens peuvent mutualiser des équipements lorsqu'ils travaillent, donc que ce soit une connexion Internet quand on est indépendant, mais aussi des machines de bois, des machines de métal lorsqu'on est artisan. Donc voilà, c'est la Roue, c'est ça. Pour l'instant, c'est un petit tiers-lieu. On a eu quelques rebondissements ces derniers mois, mais là, on est installé dans un petit local qui est mis à disposition de l'association à Chabeille. Et le projet a besoin de... Enfin, on aimerait beaucoup le développer et l'étendre. Et du coup, voilà, pour l'instant, c'est pour ça que je dis c'est à la fois un tiers-lieu, mais aussi un tiers-lieu en développement qui a besoin de se développer.
Et de se développer dans quelle direction, justement ?
Alors, parce qu'on est un peu réduit, là, avec l'espace qu'on a à disposition. Donc nous, notre ambition, c'est de créer une sorte de Fab Lab. Donc le Fab Lab, c'est le fait de mettre à disposition un certain type de machines, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, ce genre de choses. Nous, on a envie d'avoir un Fab Lab qui est à destination des collégiens et des jeunes, des lycéens, pour leur permettre de créer. On dit beaucoup les dangers des écrans, attention les écrans, et c'est vrai que c'est un peu redoutable pour les... Enfin, ils y passent énormément de temps et nous, on se dit que c'est intéressant s'ils se reconnectent à des machines et s'ils fabriquent des choses. Alors, ça peut être des choses via des écrans. On peut imaginer aussi d'avoir un studio photo, un studio vidéo pour leur permettre d'atteindre leur rêve de devenir YouTuber, de faire des montages de vidéos. Donc, le Fab Lab, c'est une direction. Créer vraiment un coworking un peu plus important. Là, actuellement, on a 2 artisans, un luthier et Grégoire qui transforme des TSF en enceintes Bluetooth et en ampli guitare. Wow. Et Franck, qui est donc luthier. Il y a Maxime qui est avec nous, qui est musicien, qui compose. Voilà, mais à terme, on aimerait bien avoir plus d'espace pour pouvoir accueillir plus de monde.
Génial. Et quels sont les ateliers, par exemple, que vous proposiez ? Est-ce que vous continuez à en proposer ?
On a, depuis le début, en effet, des ateliers imaginés avec des personnes qui travaillent dans le territoire. Notamment, cette petite entreprise s'appelle Pousse de Science, qui fait des ateliers scientifiques. Donc ça, à destination d'enfants entre 4 et 12 ans, sur des formats de 2 heures. Donc elle est docteure en biologie, donc c'est des choses vraiment très... très pro et en même temps hyper interactif et ludique pour ce public-là. Ça, on les a fait depuis le début. On continue à les faire un petit peu avec évidemment moins de monde et une fréquence un peu moins importante, mais il y a une telle demande, enfin ça plaît tellement qu'on veut les maintenir. On a fait aussi des scènes ouvertes, voilà, des choses autour de la musique. On a en projet l'idée de développer des ateliers philo pour les enfants et aussi des ateliers d'écriture avec un duo adulte, enfin un peu tout public. On n'a pas envie non plus d'avoir que des choses qui soient pour les enfants ou pour les adultes. Je pense que c'est bien d'avoir des ateliers qui sont ouverts à tous et de faire collaborer des adultes, des enfants pour un atelier d'écriture et de mise en musique. Donc tout ça, c'est en projet.
Génial.
Une petite remarque, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles possibles entre les émissions locales et les Fab Labs, par
bien
exemple
sûr,
parce que, voilà, et entre tous d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a parlé du Festival des vocations qui aurait dû se faire l'année dernière, qui ne s'est pas fait, qui se fera peut-être en 2021, on verra. En tous les cas, c'était remettre en lumière le travail des mains. Travail manuel, c'est toujours un peu... Mais par contre, le travail des mains, effectivement, et que donc, peut-être certains jeunes pourraient aller visiter ces tiers-lieux pour toucher, comme tu disais.
Oui.
C'est vraiment votre objectif aussi de permettre ça.
Mais en effet, comme il y a beaucoup de ponts, vous avez dit plusieurs fois redonner confiance. On a fait aussi des ateliers clowns à la roue en juillet dernier. Il y a évidemment beaucoup de passerelles. Vous avez parlé de casser un peu les tubes. Moi, j'utilise souvent cette image des silos. Les gens travaillent en silos. Il y a les gens des entreprises, il y a les étudiants, il y a les jeunes, il y a les retraités. Et en fait, non, il faut que tous ces gens-là absolument... et des lieux où ils puissent se rencontrer et faire des choses ensemble, bien sûr.
C'est ce que vient de faire Radio BLV en nous faisant nous rencontrer.
Absolument.
Non,
mais on est là, c'est la radio, c'est les passerelles. Les créateurs de liens.
Et ça ressemble à quoi, ce local? Si on imagine être à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on voit une immense pièce qui est un atelier dans lequel il y a énormément de bazar, parce que c'est la créativité qui foisonne. Donc, il y a Franck qui a ses guitares Cigar Box. Donc, il y a énormément de... Voilà, il fabrique des petites guitares à partir de boîtes de cigares. Donc, il y en a partout. Il y a des machines à bois, il y a de la suie par terre, ça sent le bois... il y a énormément d'objets qui sont en train d'être récupérés, recyclés, en attente d'un projet. Et puis il y a une partie qui accueille le public où là c'est un peu plus rangé. On a des tables et des chaises. Ça ressemble à un petit appartement, cette partie-là, dans lequel on accueille le public pour l'instant.
Et comment faire pour vous rejoindre?
Pour nous rejoindre, donc on est une association, on est sur Hello Asso pour devenir adhérent. Sinon, on a une page Facebook, Tiers-lieu La Roue. Ça m'embête un peu d'être uniquement sur Facebook. J'aimerais bien qu'on ait un site internet à terme. Donc si quelqu'un qui écoute BLV a des compétences à proposer, on a un petit budget pour ça et je pense que ça va devenir essentiel. Et puis sinon, contact@associationlaroue.fr.
Super. Voilà. Et quel est ton parcours à toi pour en arriver à la roue?
Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises qui faisaient du conseil en communication et marketing. Et puis, j'en ai eu un petit peu assez de... je trouve ça passionnant, la communication et le marketing aussi, d'une certaine manière. Mais les projets sur lesquels je travaillais, c'était le futur shampoing ou la bouffe pour bébé. Voilà, c'était pas forcément des choses auxquelles je me sentais tout à fait tout le temps reliée, en tout cas. Et donc j'ai voulu me reconnecter à quelque chose un peu plus proche de ce qui me tient à cœur, et puis surtout que ce soit incarné dans un lieu et rencontrer des gens, être en contact avec eux et fabriquer des choses, vraiment c'est ce qui me tenait à cœur, d'où la bifurcation dans mon parcours professionnel.
Et tu as trouvé ce que tu cherchais?
Oui, absolument. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai mon activité d'indépendante, je continue à travailler pour des clients à Paris et ici. Et puis par ailleurs, je dédie du temps bénévolement pour la roue. Et puis par ailleurs, comme tout le monde, je m'occupe de mes enfants. Donc énormément d'activités, les journées sont bien remplies.
Merci beaucoup, Aliénor. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, dire que... Si, peut-être. Dire que, en effet, on est à la recherche d'un grand local. On est en discussion avec plusieurs communes, la Baume d'Austin notamment, Chabeuil toujours bien sûr, et puis la commune ici de Bourg-lès-Valence. On cherche un local plus grand pour se développer. Alors pas dans l'immédiat, parce que là on vient de déménager cet été du lieu dans lequel on était, donc on va pas bouger tout de suite, mais à terme, d'ici quelques mois, quelques années, on aurait besoin de mètres carrés pour développer le projet.
C'est quelle taille quand tu dis plus grand?
C'est 200-300 mètres carrés qu'il nous faudrait.
Et puisqu'on est vraiment sur un atelier, si tu parles de Fab Lab, c'est l'idée de l'atelier, quoi.
Oui.
Alors, on peut peut-être rajouter, vous êtes une association.
Oui.
Donc, on peut peut-être, parce que nous, on l'a fait quand on a fait des appels aussi, quand on cherchait un local, c'est que quand on est privé et qu'on peut mettre à disposition un lieu auprès d'une association, qu'on peut passer en don aussi, c'est à savoir.
Merci pour cette précision.
Merci, Aliénor.
Ça n'a pas marché pour nous, mais ça peut marcher pour d'autres.
Merci.
Les bonnes nouvelles. Alors, on avait fait jusque-là, on a fait les bonnes nouvelles de 2020 pour essayer de permettre à 2020 de ne pas partir complètement aux oubliettes. Mais là, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle de 2021. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'investiture de Joe Biden en qualité de 46e président des États-Unis. Et alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle, me direz-vous? Eh bien, pour avant toute chose, parce que c'est le jour du départ officiel de Donald Trump, qui ne dérogeant pas d'ailleurs à son personnage jusqu'au bout, a refusé de participer à la cérémonie de passation de pouvoir, une première depuis plus d'un siècle aux États-Unis. C'est aussi une bonne nouvelle de voir les démocrates revenir aux commandes avec sous-jacent un espoir, notamment de voir l'environnement de devenir un des points centraux de la politique états-unienne. Même si Joe Biden est connu pour être plutôt centriste, la politique sociale évoluera aussi. Où on part de si loin avec le mandat de Trump qu'il ne peut pas y avoir, il ne peut y avoir que des améliorations, on est tous d'accord. Et puis, c'est une bonne nouvelle, car aujourd'hui, une femme afro- et asio-américaine devient vice-présidente des États-Unis et on ne peut que s'en réjouir. Alors, rendez-vous autour de 17h30, heure française, pour vivre la cérémonie en direct, avec moult réjouissances, mais un petit peu, on va dire, sans public, avec des drapeaux à la place du public qui, généralement, envahit la place.
Oui, ben merci beaucoup, Sylvie. Je vois qu'au programme, il y a Lady Gaga qui chantera l'hymne américain, Jennifer Lopez aussi.
Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais en tout cas...
Un gros spectacle en perspective. Mais c'est la fin de cette locale. On se retrouve demain. Si
peut-être juste, puisqu'on a 3 minutes, on reparle parce qu'on avait accueilli, on vous avait accueilli notamment par rapport à la promo 16-18 et que la promo 16-18, eh bien, avec l'AFPA, ça a bien démarré. On devrait les avoir assez rapidement en studio aussi. Vous continuez à suivre. Est-ce qu'il y a des demandes? Juste vraiment en une minute.
Le chapeau, c'est qu'on peut le voir parce qu'on fait une campagne de publicité à l'heure actuelle sur les bus et à l'arrière des bus, donc pour tout renseignement. Mais je laisse la parole à Madame Treuf.
Alors, tous les lundis de 16h à 17h à la mission locale, on a une réunion d'information justement pour les parents et les jeunes âgés entre 16 et 18 ans s'ils veulent venir prendre des informations. Donc, je rappelle que c'est dans le cadre de l'obligation de formation. Donc, tout jeune qui est sorti du système scolaire, qui a 16 ans, ne peut pas rester chez lui à rien faire. Donc, doit être accompagné, doit venir à la mission locale et avec le CIU, on étudie la faisabilité derrière. Mais oui, la promo 16-18 a bien débuté. Il y a 13 jeunes qui sont actuellement donc à l'AFPA. L'affichage sur les bus donne aussi un petit peu, parce que pour le coup, on a quelques mamans qui nous appellent en ce moment, nous disant « mon fils, mon fils, mon fils ». Donc là, c'est depuis cette semaine où ça a commencé.
Alors pourquoi tu dis « mon fils, mon fils, mon fils »
Parce que là, c'est que des mamans qui appellent pour leur fils.
C'est que des garçons.
Oui, j'espère entendre aussi ma fille, mais bon, voilà.
Ou peut-être que les filles ont moins, voilà,
elles ont peut-être
moins décrocheuses, c'est possible aussi.
Et donc voilà.
Oui. Il y a une toute petite chose dont j'ai oublié de parler qui me tient à cœur, c'est qu'à La Roue, on développe aussi un studio de musique. On a fait des travaux pour rénover une cave voûtée. Donc s'il y a des musiciens, je sais qu'il y en a beaucoup, des groupes qui écoutent le BLV, n'hésitez pas à nous contacter. On va faire une petite après-midi porte ouverte dans la limite des places disponibles, mais bref, le 5 février. Donc si vous avez des projets musicaux à proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Et puis,
ben,
on se retrouve demain, Karina. Demain, 11h, pour Avec ou sans sucre. Et à 12h15, pour la prochaine locale.
Exactement. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir à tous.
Merci. Au revoir.